France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Dans l'Antiquité, les morts étaient parfois accompagnés dans leur dernier séjour de petits objets qu'on nomme tablettes de malédiction ou tablettes de défiction. De récentes fouilles menées à Orléans ont mis au jour une nécropole atypique abritant 22 de ces objets. Cette découverte est exceptionnelle du fait du nombre de tablettes retrouvées, mais aussi de leur contenu. En effet, l'une d'entre elles présente un texte en langue gauloise. Or, on sait très peu de choses de cette famille de langues parlées par des peuples qui ne disposaient pas de leur propre écriture. On se demande donc aujourd'hui pourquoi on confiait parfois aux morts de l'Antiquité le soin de maudire ou d'envoûter les vivants, mais aussi à quoi pouvaient bien ressembler les langues gauloises. On n'oubliera pas, bien sûr, de faire un point sur les autres découvertes de ce site important, fouillé à Orléans, dont les vestiges vont maintenant demander un travail patient d'analyse. Et ce travail, ce sera le vôtre, Caroline Milreux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, spécialiste de la proto-histoire au service archéologie de la ville d'Orléans et responsable des dernières fouilles sur le site de la Porte Madeleine, où on a découvert ces merveilleuses tablettes. Bonjour Julien Courtois.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, responsable d'opérations spécialisées de l'époque romaine au sein du service archéologie de la ville d'Orléans. Merci beaucoup à tous les deux de venir nous parler aujourd'hui de vos découvertes récentes sur un site un peu particulier qu'on va décrire ensemble. Caroline Milreux, j'aimerais d'abord peut-être pour commencer qu'on remonte à l'origine des fouilles que vous avez pu conduire l'un et l'autre à Orléans sur le site de l'hôpital Porte-Madeleine. Pourquoi est-ce que on a sollicité vos équipes en 2016?
Alors, il s'agit d'une fouille préventive qui est réalisée dans le cadre de la réhabilitation du site de l'ancien hôpital d'Orléans. Avant cette fouille, qui a donc commencé en 2022 et qui se poursuit actuellement encore pour quelques semaines, quelques mois, il y a eu un diagnostic réalisé par Émilie Roux, du service archéologique également. Ce diagnostic, en 2016, est alors opéré en fait, sur des petits sondages sur une surface très restreinte, puisque l'hôpital est encore actif.
Alors ça, on le dira, c'est vrai que c'est une surface assez importante qui est concernée par ces travaux de fouilles. Le diagnostic, Julien Courtois, qu'est-ce qu'il a pu mettre en évidence qui vous a mis, en tout cas qui a mis les équipes d'archéologues sur une piste intéressante à creuser?
Alors, ce diagnostic, il a permis de mettre au jour quelques sépultures de l'époque romaine. Alors, comme l'a précisé Caroline, il n'y a eu que quelques sondages qu'on peut être réalisés sur ce site qui est immense, mais qui était encore occupé à l'époque. Et donc, c'est un grand coup de chance d'avoir pu trouver ces sépultures gallo-romaines, dont certaines qui étaient dans les sous-sols d'un des bâtiments de l'hôpital qui date du 19e siècle. Et donc, ces quelques sépultures, distantes de quand même plusieurs dizaines de mètres les unes des autres, enfin, en tout cas, sur deux sondages distants de plusieurs dizaines de mètres, nous permettait de restituer une nécropole de l'époque romaine dans ce secteur-là qui restait à fouiller par la suite.
Caroline Milreux, ces diagnostics et cette découverte de quelques sépultures a permis la mise en place de deux campagnes de fouilles, l'une menée tout au long de l'année 2022 et une autre en 2023 qui est sur le point de s'achever, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on a pu, avant de rentrer vraiment dans le détail, qu'est-ce qu'on a pu établir concernant l'occupation globale de ce site? À quoi ça servait
voilà. Alors déjà, effectivement, la parcelle de l'hôpital, c'est une énorme parcelle de 5 hectares. Mais la partie nord de cette parcelle est occupée par deux bâtiments. Donc l'hôtel-lieu, dont parlait Julien, ont été découvertes les premières sépultures. C'était un bâtiment de la moitié du... Enfin, inauguré en tous les cas au milieu du 19e siècle. Oui. Et puis un autre bâtiment, plus ancien, de la fin du 17e siècle. Et en fait, c'est à cette époque que sont installés, qu'arrivent les premiers bâtiments hospitaliers. Donc déjà, on a une partie de l'histoire du site récente qui nous concerne, puisque sur la partie sud du site, là où on a pu intervenir, on a les aménagements annexes de ces bâtiments. Mmh. Pour commencer.
Alors, ce site, il est occupé depuis le néolithique. Donc, nous, on va se concentrer sur la partie gallo-romaine, puisqu'il y a ces sépultures et ces tablettes. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire de façon un peu globale de cette occupation au long cours?
Alors, déjà, on est en dehors de la ville jusqu'à la fin du Moyen-Âge. On a les premières traces d'établissements, des caves, des maisons, découvertes sur le site aux alentours du XVIe siècle, voire un peu plus tôt. Avant, donc entre la fin de la proto-histoire et cette période, on va avoir plusieurs espaces funéraires qui ne vont pas se succéder, mais qu'on retrouve sur tout le site. Un premier à la fin de l'âge du fer. On est deux siècles avant la nécropole gallo-romaine. Donc cet espace-là, il est également très important. Il se situe sous la nécropole. Il n'a pas tout à fait la même orientation. Alors, on sort vraiment de la fouille, donc on n'a pas encore tous les éléments.
Oui, mais c'est bien, vous reviendrez nous en parler.
Mais on est déjà sur un espace à la frontière entre le funéraire et le cultuel. Voilà.
Julien Courtois, si on se concentre maintenant sur cette période gallo-romaine, que sait-on d'Orléans à l'époque gallo-romaine? Quelle était cette ville? Quel peuple gaulois la peuplait? Comment on peut présenter cette cité-là?
Alors Orléans, donc, qui se nomme Kenabum, donc à l'époque gauloise et à l'époque romaine, c'est une des villes très importantes du peuple gaulois des Carnutes, mais qui n'est pas la capitale des Carnutes. La capitale, c'est Autricum, c'est-à-dire Chartres actuellement. Et donc Orléans va rester pendant toute la période romaine une ville très importante de ce peuple, parce que c'est un port sur la Loire, et donc c'est vraiment une place commerciale très importante. Chartres, c'est la place, on va dire, administrative, c'est vraiment le chef-lieu administratif de la cité des Carnutes, et Orléans tient lieu un petit peu de port commercial pour cette cité, pour ce peuple gaulois des Carnutes.
On a trouvé donc, Caroline Millereux, une nécropole gallo-romaine à cet endroit-là. Les nécropoles gallo-romaines, on en trouve assez régulièrement quand on réalise... en tout cas, c'est un objet qui n'est pas si rare. Ce qui est rare avec cette nécropole-là, c'est sa structure, c'est sa forme. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux nécropoles classiques, on va dire?
Alors déjà, juste pour préciser, on a de très bonnes connaissances de la ville d'Orléans, mais moins de ses espaces funéraires. Oui. Voilà, c'est très mal documenté. Donc là, c'est l'occasion de pouvoir fouiller une nécropole alors quasi complète. Hein. On n'en a pas l'extrémité nord, mais il est possible qu'on y intervienne.
Et on invite les décideurs à vous laisser aller fouiller.
Voilà, c'est exactement ça.
Alors, pour revenir donc à ma question, donc c'était cette question de la structure, en particulier de cette nécropole-là. Qu'est-ce qu'elle a d'original?
Alors, elle nous intéresse également par sa structure qui est atypique. Elle a une organisation très particulière. Comme je vous le disais, on est à l'écart de la ville. Alors, on n'est pas très loin du premier faubourg, qui constitue une des voies de sortie les plus importantes, une très importante de l'agglomération. On a les premières traces d'habitat, Julien, tu confirmeras, qui sont à 200-300 mètres. Oui. Et puis, donc on a cette nécropole qui parcourt le site du nord au sud. On est à quelques centaines de mètres de la Loire, en rive droite, qui est situé donc sur la pente du coteau. On est en sommet de coteau sur un petit plateau, et on a cette nécropole qui forme une bande qui est orientée nord-est-sud-ouest, une bande de 150 mètres de long sur la fouille, mais donc qui peut s'étendre peut-être à 250 mètres, et très étroite, c'est-à-dire 5 mètres de large. Au plus.
Julien Courtois, d'habitude, c'est vrai que les nécropoles, elles s'étalent, peu comme nos cimetières à nous, et là, on est sur une structure en longueur, c'est étonnant.
Exactement. Donc, les nécropoles, à l'époque romaine, déjà, sont toujours à l'extérieur des villes. Ce qui est assez pratique pour nous, archéologues, parce que quand on a une nécropole, on sait qu'on n'est plus dans la ville. Et donc là, en l'occurrence, c'est le cas ici, on est juste derrière les faubourgs, on est à proximité des faubourgs et de la sortie de la ville. Et les nécropoles classiques sont vraiment assez étendues ou disposées le long des voies de sortie de deux villes. Là, on a un schéma qui est complètement différent, qui est dans cette bande très étroite qu'a décrite Caroline, et qui vient prendre place le long d'un mur qu'on a identifié sur toute la longueur, quasiment toute la longueur de la nécropole, et donc qui vient vraiment faire une espèce de séparation physique déjà entre ce qui se passe à l'est, c'est-à-dire la ville, et ce qui se passe à l'ouest, juste à l'ouest, c'est la nécropole.
Ce mur, il fait 60 cm d'épaisseur à peu près, donc c'est pas une muraille, Caroline Millereux.
Non, c'est plutôt une limite parcellaire, un muret, c'est pas un mur de bâtiment non plus.
Voilà. Une nécropole, on y enterre des morts. Combien de personnes a-t-on retrouvé, Julien Courtois, dans cette nécropole gallo-romaine?
Alors pour l'instant, ce sont 80 individus qui ont été fouillés, mais il y en a certainement d'autres. On sait que la nécropole se prolonge au-delà, vers le nord, c'est ce que disait Caroline, et notamment en direction de l'ancien Hôtel Dieu, là où avaient été identifiées les premières sépultures lors du diagnostic en 2016. Donc il y a fort à parier que si on peut intervenir à un moment donné dans les sous-sols de l'Hôtel Dieu, on trouvera d'autres sépultures. Oui. Pour le moment, c'est 80, ce qui est déjà pas mal, ça nous fait un corpus assez important.
Et qui est assez révélateur, en tout cas qui pose beaucoup de questions. Caroline Millereux, qui sont ces individus-là? Il y a quelque chose d'assez étonnant là.
Alors, on se pose des questions, effectivement, parce qu'il s'agit uniquement d'hommes. Alors,
une
on a
femme.
Une exception, une fosse trouvée l'année dernière, et dans le cercueil est inhumée une femme au-dessus d'un homme. Je n'ai pas de réponse à vous apporter aujourd'hui.
Quelle moyenne d'âge à peu près?
Alors on est entre l'âge au décès entre 20 et 50 ans.
Donc pas d'enfants. Personnage plutôt jeune, pas d'enfants. Donc c'est pas des sépultures familiales a priori donc.
Alors on ne pense pas parce que ça fait quand même un certain nombre d'individus et surtout cette nécropole, on a oublié de préciser qu'elle elle est en fait elle dure, elle a elle commence à la fin du 1er siècle et s'étend jusqu'au milieu du 3e siècle. Donc on a une occupation longue, une réutilisation de cet espace et on continue, on inhume uniquement des hommes pendant 2 siècles.
Julien Courtois, alors si ce sont que des hommes qui sont enterrés pendant près de 2 siècles, comment on peut catégoriser leur appartenance sociale? Est-ce qu'on a trouvé d'autres objets qui pourraient nous mettre sur la piste et nous dire, tiens, ils appartiennent peut-être à cette corporation ou à tel groupe social?
Et ben pour le moment, non, on n'a pas vraiment d'indice flagrant qui permettrait d'identifier ces personnes. Si on avait trouvé des armes, par exemple, on aurait pu s'orienter vers des militaires. Là, on n'a pas trouvé une seule arme dans toutes ces sépultures. Donc on peut assez légitimement évacuer cette hypothèse, d'autant plus que l'étude des squelettes a montré qu'il n'y avait pas eu de traumatisme sur les ossements liés à des blessures, liés à des batailles, etc. Des combats, voilà. Donc on peut exclure l'hypothèse des militaires, mais après, il y a plein d'autres hypothèses possibles. Alors, soit des corporations, soit des édiles, des magistrats. Voilà. Pour l'instant, on a plein d'hypothèses, mais on n'a absolument pas d'éléments qui permettent de privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre.
Et puis, sur ces 80 sépultures, on y vient enfin, Caroline Millereux, on trouve 22 tablettes de malédiction. Des tablettes de défiction, comme on les nomme de façon un peu plus scientifique. Que sont ces tablettes-là? Avant qu'on se concentre sur ces 22 tablettes-là, ça sert à quoi? C'est quoi cette pratique? Pourquoi est-ce qu'on va confier à des morts des malédictions et qui les... Voilà, comment ça se passe? Pourquoi ces objets-là existent?
Alors, c'est une pratique magique, tout simplement. Enfin, c'est comme ça que les auteurs la décrivent. Ce sont des petites plaques de plomb. Essentiellement du plomb pour cette pratique de la défiction. Donc défiction, ça vient du latin défixio, qui veut dire clouer, figer, fixer. On veut fixer une personne. En grec, on dit katadesmos, c'est l'envoûtement. Donc ce sont des tablettes d'envoûtement. On veut contraindre un rival, tout simplement.
Quand on arrive à traduire ces tablettes-là, Julien Courtois, que contiennent ces textes de malédiction et pourquoi les vivants confient ces objets aux morts? Pourquoi on enterre ces objets-là?
Alors en fait, les tablettes de défiction, donc en effet, ce sont des malédictions qui, le plus souvent, sont retrouvées dans des contextes liés aux divinités chthoniennes, c'est-à-dire aux divinités de la terre, des enfers. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve souvent en contexte funéraire, avec des morts, mais on les retrouve aussi dans des puits, au plus profond, vers les profondeurs de la terre, mais aussi dans des sources, puisque l'eau jaillit de la terre, et donc on suppose que là c'est un vecteur en direction des divinités. Et donc il faut voir aussi qu'il y a plusieurs types de malédictions. On peut les catégoriser un petit peu, donc il y a des malédictions qui sont liées plutôt à des différends juridiques entre des personnes, donc on va maudire tel ou tel pour que
Hermès ou Mercure punissent la personne.
Il y a différents juridiques, ça peut être des différends pécuniaires, mais ça peut être aussi des différents amoureux. Voilà, donc il y a plusieurs catégories comme ça qui permettent de classer un petit peu ces malédictions. Et le plus souvent, donc évidemment, les personnes qui sont maudites sont nommées. Voilà, mais celui qui maudit n'est jamais nommé parce que à l'époque romaine, c'est très 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 mal vu de maudire quelqu'un. Les malédictions sont extrêmement mal vues et donc il faut surtout pas que son nom soit affiché tel quel.
Alors là, on peut parler d'un jackpot quand même avec cette découverte de 22 tablettes de malédiction en France. En France, on en connaissait 40 seulement en Gaule romaine, en tout cas. Caroline Millereux, ça c'est voilà, d'un coup le corpus augmente de 50%, c'est colossal.
Exactement, oui.
Bravo, alors du coup, on va s'abrer le champagne.
C'est plein d'espoir en fait, et c'est surtout qu'une des tablettes est en langue gauloise, et Julien y reviendra en détail, hein, mais des longues inscriptions en gaulois, on en trouve une tous les 10 ans.
On connaît combien de textes, Julien Courtois, en langue gauloise actuellement? Très très peu, puisque on le rappelle, les Gaulois n'avaient pas d'alphabet.
Exactement. Donc on comptait à peu près 400 textes en langue gauloise. Donc les Gaulois ont une langue, mais n'ont pas d'alphabet. Donc ils empruntent soit l'alphabet grec, alors plutôt dans le sud de la France, soit pour le reste de la Gaule, plutôt l'alphabet latin. Donc 400 textes, c'est à la fois beaucoup et très très peu pour une langue qui a disparu et qu'il faut reconstituer. Donc un texte supplémentaire avec en plus plusieurs mots de langue gauloise, c'est toujours une pièce supplémentaire du puzzle en plus.
Et on reviendra au contexte et aux moyens de la découverte et du déchiffrement finalement de cette tablette de malédiction, mais j'aimerais qu'on s'attarde quand même encore sur ces objets un peu étonnants. Caroline Millereux, qui les fabrique, ces tablettes de malédiction?
Alors, ce sont des magiciens, tout simplement.
Tout simplement.
Il faut savoir que donc l'usage du plomb est très important. Il a deux raisons. Un côté très pratique. C'est un matériau qui est malléable, facilement incisable. Et puis, il a une raison aussi symbolique. Métal froid qui renvoie encore une fois aux divinités souterraines. Mm-hmm. Donc, on fait une commande à un magicien qui fabrique la petite formule magique et l'incise sur la tablette.
Julien Courtois, ces tablettes, donc on en a retrouvé 5 durant la première campagne de fouille, puis 17 durant la seconde. On a pu étudier de façon approfondie que ces 5 tablettes, que entre guillemets, puisque sur ces 2, sur ces 5, 3 étaient pas assez en bon état, elles étaient trop dégradées.
Voilà.
Quand on prend les 2 autres tablettes, est-ce qu'on peut deviner, en les regardant à l'œil nu, qu'elles sont porteuses d'inscriptions?
Alors, pas nécessairement, parce que les 2 tablettes qui portent les inscriptions, qui sont très bien conservées, les autres, en effet, on sait qu'elles sont inscrites, mais elles sont à l'état de 1000 pièces, donc malheureusement, on ne pourra pas reconstituer le texte. Mais pour les 2 tablettes qui étaient très bien conservées, on a eu la chance de les trouver encore enroulées sur elles-mêmes, ou repliées et enroulées sur elles-mêmes. Ce qui fait que ça a gardé l'intégrité de l'objet, de la tablette, mais pour accéder au texte qui était à l'intérieur, il a fallu les dérouler. Donc ça, c'est une restauratrice qui s'est chargée de cette opération très délicate, et donc qui a déroulé la tablette en prenant beaucoup de précautions et une fois que la tablette était déroulée, on a pu voir qu'il y avait un texte à l'intérieur et ça a confirmé l'hypothèse de départ de l'interprétation de l'objet qu'on avait, comme quoi c'était une tablette de défiction.
Quels outils vous avez mobilisés, Caroline Milreux, pour observer ces tablettes, pour les décrypter et puis pour voir qu'il y avait des textes inscrits dessus?
Alors, en fait, c'est Julien qui a réuni une équipe de spécialistes, car pendant que je faisais la deuxième phase de fouille,
vous étiez
en fouille. Et donc,
continue à trouver les tablettes et puis moi, j'essaie de rassembler les spécialistes.
Alors, parlez-nous, Julien, pour toi, de cette méthode-là.
Et quand on s'est aperçu justement avec la restauratrice que les tablettes étaient inscrites, il faut voir que ce sont des incisions qui sont extrêmement fines. Alors, les objets sont très petits. Ça fait
vous avez amené d'ailleurs des scans.
J'ai amené quelques photos d'une de ces tablettes. Donc, ça fait 10 cm sur 5. Donc, c'est vraiment tout petit. Les incisions sont extrêmement fines. Et donc, on peut voir à l'œil nu qu'il y a des incisions en utilisant une lumière très rasante, en voyant légèrement les incisions. Mais pour avoir une vision de l'ensemble de l'objet, il a fallu qu'on utilise une technique qu'on appelle la RTI. Donc c'est en anglais Reflectance Transformation Imaging.
Imagerie de transformation par réflectivité.
Voilà, ouais. En français c'est beaucoup mieux. Et donc c'est une technique de relevé qui permet de photographier un objet ou une paroi. Alors ça marche très très bien sur les parois rocheuses ou sur les tableaux par exemple. Mais là en l'occurrence c'est un objet avec des sources lumineuses qu'on va faire varier au fil du temps. Et donc à chaque fois on prend une photo et il y a un logiciel qui va permettre de reconstituer.
On va lire les ombres finalement.
Exactement,
portées.
Qui va reconstituer le modèle avec la photo et virtuellement on pourra modifier la source lumineuse avec avec la souris de l'ordinateur. Et donc en forçant la source lumineuse avec une lumière très rasante, ça permet de voir le texte de manière beaucoup plus simple.
Sur ces 2 tablettes qui étaient déchiffrables, je le disais tout à l'heure, il y en a une qui est écrite en latin, l'autre en langue gauloise, mais avec un alphabet latin. Si on se concentre dans un premier temps sur celle écrite en latin, à qui s'adresse-t-elle? Quelle malédiction? Quel dieu est appelé d'une certaine façon?
Alors, celle qui est en latin, elle est adressée à Mercure, au dieu Mercure, et elle est liée à une affaire de vol ou de perte d'argent, d'une somme d'argent assez importante. Alors, on n'est pas très sûr encore pour le moment de la somme d'argent qui a été perdue. Il y a des chiffres qui sont visibles, mais il faut qu'on arrive à décrypter correctement tout ça pour être sûr de la somme que ça représente. Bon, en tout cas, une somme d'argent assez importante qui a été perdue. Et donc, il y a une série de noms par la suite qui sont donnés, des personnes qui ont soit participé directement à la perte de cette somme d'argent ou au vol de cette somme d'argent, soit qui ont été complices. Donc on précise à chaque fois les personnes qui sont directement impliquées et les complices potentiels. Ce que ne précise pas cette tablette, c'est pour quelle raison cette somme d'argent a été volée. Là, on n'a pas. Alors évidemment, qui porte la malédiction, mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne le sait pas.
Jamais.
Et on ne sait pas aussi ce qui est demandé jugement au dieu Mercure. Donc on ne sait pas quels supplices sont adressés aux personnes qui sont maudites.
Pour ce qui est de celle en alphabet latin, mais en langue gauloise, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que là, c'est super compliqué. On le disait tout à l'heure, les langues gauloises, c'est une terra incognita quasiment. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement de cette inscription-là et pourquoi elle est aussi précieuse?
Bah, elle est aussi précieuse parce qu'en effet, toutes les inscriptions gauloises sont extrêmement rares. Donc une inscription en plus, c'est toujours une pièce du puzzle supplémentaire. Et puis aussi, ce qui est très très intéressant, c'est que, alors on connaît d'autres tablettes de défiction en langue gauloise en Gaule. On en connaît quelques-unes, très très peu, mais ça se compte sur les doigts d'une main, mais on en connaît quelques-unes. Et là, ce qui est particulièrement intéressant avec celle-ci, c'est qu'on a des formulations magiques qui sont parfaitement similaires à des formulations magiques qui étaient gravé sur une tablette trouvée à l'hospitalet du Larzac, donc dans l'Aveyron.
Les plombs du Larzac.
Les plombs, voilà, exactement, le plomb du Larzac. Et donc, on a des formulations magiques qui sont alors, pas exactement similaires, mais vraiment très très proches, ce qui prouve qu'il y a une espèce de bréviaire, de formules magiques qui sont utilisées.
Il y a des échanges culturels, voilà.
Exactement, des échanges culturels. Dans un grand espace de la Gaule, on utilise des formules magiques qui sont finalement très similaires.
Alors, le gaulois, c'est une langue parlée, mais pas écrite, je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'on a aujourd'hui, grâce à ce genre d'objets, des pistes qui s'ouvrent pour alimenter, enrichir d'une certaine façon la linguistique gauloise, ou bien est-ce que ça suffira pas? Qu'est-ce qui nous manque concrètement, Caroline Mulreux? C'est un vaste sujet, ça. Julien Courtois.
Il faut faire appel à des parallèles, parce qu'en effet le gaulois est une langue qui a disparu, donc il faut faire appel à des parallèles, des lointains cousins du gaulois, qui sont des langues celtiques insulaires, donc le vieux breton, le vieil irlandais, le vieux gaélique, donc qui permettent d'avoir des correspondances à certains mots, alors qui ne sont plus les mêmes, mais qui ressemblent énormément, et donc on peut arriver. Donc il y a des spécialistes. Donc là, en l'occurrence, c'est Pierre-Yves Lambert, qui est un éminent spécialiste de la langue gauloise depuis très très longtemps, et qui a travaillé d'arrache-pied, et on le remercie, sur cette tablette, pour arriver à avoir une traduction la plus correcte possible, en faisant justement des recherches et des parallèles par rapport aux autres mots de langue celtique insulaire. Mais il y a aussi des mots qui se rapprochent du grec sur cette tablette. Mmh. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a à la fois... Donc, elle est inscrite en cursive latine, c'est-à-dire en alphabet latin cursif. Elle est majoritairement en langue gauloise, mais aussi avec des mots emprunts au grec et des noms de personnes qui sont à la fois des noms de personnes gaulois, voilà, mais aussi des noms clairement plutôt romains, latins.
Des divinités.
Alors, Mars. Des noms de personnes.
Oui,
alors d'accord. La divinité en elle-même, c'est Mars, donc en effet c'est une divinité d'origine romaine, mais qui a un épithète, donc c'est Mars Rigizamos, Mars le royal, et donc la divinité est d'origine latine, mais avec un épithète lié à peut-être une pratique culturelle gauloise.
Alors, on a encore 17 tablettes à étudier, est-ce qu'elles sont toutes étudiables, exploitables, pas suffisamment dégradées, Caroline Mulreux?
Je crois qu'elles sont toutes exploitables parce qu'elles sont en très bon état. Et alors, certaines sont enroulées, donc feront peut-être l'objet d'un autre processus.
Quel projet de recherche, du coup, on peut mettre en place pour les étudier?
On est en train d'ouvrir un peu le groupe de spécialistes pour élargir un peu les compétences. Et on a notamment emmené une de nos tablettes au Synchrotron Soleil.
Sur le plateau de Saclay, oui.
Voilà, sur le plateau de Saclay à l'automne, pour tenter d'aller encore plus loin, en fait, dans l'imagerie, et cette tablette était pliée, enroulée sur elle-même, et on est parvenu à déjà lire quelques signes. Donc l'objectif suivant, c'est les prochains jours avec Julien, de déposer un projet au synchrotron qu'on espère obtenir, afin de pouvoir lire les tablettes, enfin une partie des tablettes, sans les dérouler.
Julien Courtois, expliquez-nous en deux mots le fonctionnement de ce synchrotron et pourquoi ce serait peut-être plus précis, plus performant que la technique de RTI que vous décriviez tout à l'heure.
Alors c'est complémentaire parce que la RTI, elle est très efficace une fois que la tablette est ouverte et donc on a accès au texte à l'intérieur. Là, le principe de la tomographie à rayon X, donc c'est la méthode qu'on a utilisée avec les chercheurs du synchrotron Soleil, c'est qu'on n'a pas besoin de dérouler la tablette. Donc on peut accéder à l'intérieur de la tablette sans même avoir à la dérouler. En fait, il faut imaginer que c'est le même principe qu'un scanner médical, mais que là, plutôt que de scanner un corps humain avec juste de la chair et des os à traverser, là on a des feuilles de plomb à traverser. Ouais. Voilà. ce qui est beaucoup plus dense. Et donc là, il faut vraiment des particules avec très très forte énergie pour pouvoir traverser ces couches de plomb. Et donc, il y a que un synchrotron qui permet de faire ça, avec des niveaux de puissance assez folles qu'il faut atteindre pour pouvoir traverser ces feuilles de plomb au fur et à mesure.
Est-ce qu'on peut espérer retrouver de nouveaux textes gaulois dans ces tablettes ?
Bah, on peut espérer, oui. D'autant plus que le test, comme le précisait Caroline, qu'on a fait en octobre, a prouvé... Alors, on a testé que sur une tablette et que sur une petite partie d'une tablette, mais l'équipe qui est en charge de la ligne psyché au synchrotron Soleil a réussi à calibrer les instruments et à utiliser les logiciels pour dérouler un petit morceau de ces tablettes et montrer en effet qu'il y avait des incisions qui étaient visibles. Donc cette tablette-là, en l'occurrence, était inscrite très certainement plus sur les deux faces, contrairement aux autres tablettes dont on a parlé précédemment. Donc on peut espérer évidemment que certaines soient en gaulois, peut-être même qu'on arrivera, si on arrive à scanner la totalité d'une tablette et à dérouler virtuellement cette tablette, à voir le texte et à accéder au texte sans même avoir à la dérouler physiquement.
Caroline Millereux, le site est fouillé, je crois, à 90%, il reste 10% de fouilles, on n'a pas retrouvé que des tablettes, alors quelles analyses restent à faire maintenant, parce que le site a apporté plein d'autres informations.
Alors, sur la fouille, il y a tout à faire.
Déjà, c'est souvent ça, la joie de l'archéologie, c'est que...
On espère terminer au cours du printemps, on va dire. Et puis, en particulier sur les objets découverts sur Nécropole. On n'a pas parlé du nombre aussi de monnaies qui est remarquable. On a 400 monnaies pour les deux fouilles, donc pour 80 sépultures. Donc là, il y a toutes les études également à faire, l'identification, qui vont nous permettre en fait d'affiner la chronologie de chaque tombe. L'étude de tous les mobiliers, notamment les ossements humains, on va peut-être pouvoir avancer sur l'identité des individus, découvrir des nouvelles pathologies, des indices de mort violente, oui. Je ne pense pas, mais enfin, en tout cas, voilà, qui peuvent nous aider. Et puis, il y a aussi des cruches qui sont déposées. Donc, des cruches alimentaires qui sont des dépôts, hein, comme les monnaies, comme les tablettes de défiction. Et ces cruches, elles peuvent contenir différents restes. Alors, peut-être des offrandes alimentaires ou des remèdes. Donc, on est toujours dans le domaine du cultuel et c'est très intéressant.
Du coup, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous pour la suite des travaux. Là, on se projette à quel horizon temporel
Fin de fouille au cours de l'année. Et puis ensuite, la post-fouille qui va nous occuper, je pense, tous les deux, deux années,
un petit
si
moment.
Tout va bien. Voilà.
Bon, j'espère être encore à ce micro dans deux ans. Merci beaucoup à vous deux, Caroline Millereux et Julien Courtois. On suivra de très près ces analyses à venir. Et encore félicitations pour cette belle découverte réalisée à Orléans. Merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Merci.